Vous écoutez RTL.
Très bel après-midi sur RTL, 15h04. C'est donc l'heure de vous retrouver, Flavie Flamand, pour en effet, pour s'entendre. Bonjour Flavie.
Bonjour Marie Guerrier. Je prends l'antenne.
C'est Maude.
Bonjour Maude de Carpentier. Pourquoi, vous savez quoi, j'étais en train de me demander et de me dire, tiens, la voix de Marie a changé. Effectivement. Pardon Maude. Donc j'étais en train de vous dire, je prends l'antenne, mais je vous la rends à 16h pour un prochain point sur l'actu.
À tout à l'heure.
Merci Maude. Comment gérer la jalousie dans le couple? On en parle tout de suite sur RTL.
15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Heureuse de vous retrouver. Nous étions particulièrement satisfaits hier en quittant notre studio. Vous faire découvrir les initiatives des youtubeurs et vous donner envie de les suivre. Paris gagné. Vous avez été très nombreux à nous remercier. À l'instar de Klaus, de Barbara et de Philomène qui désormais comptent parmi les abonnés de Film. Film, c'est la chaîne de Ludovic qui était l'un de nos invités en studio pour des moments très drôles de canulars téléphoniques. Toutes les infos, sachez-le, sont sur notre page Facebook. 3210, les réseaux sociaux, vous le savez, comme chaque jour, la parole est à vous sur RTL. Nous sommes ensemble pendant une heure pour un sujet qui déchaîne les passions.
Je suis jalouse à en faire trembler les gens, à faire trembler mes jambes. J'ai plus qu'à plonger en silence, je pourrais flotter inerte.
Merci, mademoiselle K. Pour certains, c'est une preuve d'amour. Pour d'autres, c'est un véritable poison. La jalousie s'invite dans de nombreux couples et quand on la laisse un peu trop se déployer, elle est capable de faire bien des dégâts. Alors, la jalousie traduit-elle un manque de confiance en l'autre ou en soi? Pourquoi peut-elle devenir maladive? Comment gérer la jalousie dans le couple? On en parle aujourd'hui avec nos invités. Bernard Gébérowitz, bonjour, soyez le bienvenu sur RTL.
Merci, bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes psychiatre et thérapeute familial, auteur de l'ouvrage J'arrête d'être jaloux ou jalouse chez Erol, puisque hommes et femmes sont logés à la même enseigne en matière de jalousie, Bernard.
À peu près, oui.
D'accord, ok. J'arrête d'être jaloux, jalouse, ça veut dire qu'à un moment donné, c'est une entrave à l'épanouissement du couple, s'il faut s'arrêter?
À un moment donné, c'est une entrave à l'épanouissement du couple, c'est une entrave à la relation, c'est un repli sur soi, et c'est vraiment une restriction qui peut être très pernicieuse à la longue si la jalousie prend beaucoup de place.
Voilà, il ne faut pas qu'elle soit trop excessive, mais de toute façon, on en parlera avec vous. Et avec Jean-Paul Sauzet. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour.
Bienvenue dans En effet pour s'entendre. Vous êtes
Merci.
Thérapeute de couple, vous êtes créateur avec Anne Sauzet Lagarde. Mmh. Donc... votre épouse, voilà, c'est ça. Donc pas de jalousie, hein. De l'école du couple, c'est un espace de formation, de thérapie, de réflexion sur le couple. Donc j'imagine que votre couple va bien.
À peu près.
Très bien.
On traverse aussi ses crises normalement, donc c'est qu'il va bien.
Ça fait partie de la vie.
Mais oui, tout à fait.
Voilà, de couple. Et vous êtes auteur de l'ouvrage tous les deux, Les vrais secrets d'une vie de couple réussie chez Interédition. Est-ce que la jalousie c'est vraiment le baromètre de l'amour, Jean-Paul? Parce que on a reçu un message de Xavier qui dit: je ne suis pas jaloux, mais ma chérie voudrait que je le sois un petit peu plus.
Ah, ça serait tellement bon de sentir qu'elle est jalouse tous les jours, qu'elle m'en veut. Non, c'est pas nécessairement un baromètre, à mon avis. C'est plutôt une manière d'avoir des jeux de pouvoir ou d'avoir une manière de manifester son angoisse, sa solitude, sa peur que l'autre ne m'abandonne.
D'accord, donc
et ça c'est violent parfois.
Donc on ne mesure pas l'amour que l'on nous porte à la jalousie qui s'exprime.
Eh ben non, parce qu'inversement, on peut pas dire que quelqu'un n'est pas amoureux parce qu'il n'est pas jaloux. Ce serait pas juste.
Bernard Gébérowitz, effectivement, est-ce que vous avez le sentiment que parfois certains se trompent et considèrent la jalousie comme un indicateur de sentiment?
Non, ils se trompent pas. C'est un indicateur, un des indicateurs. Mais heureusement, il y en a beaucoup d'autres. C'est
d'accord.
Comme quand on dit il faut qu'on se sépare parce que je me rendrai compte que si tu me manques, ça veut dire que je t'aime. C'est un indicateur, mais c'est évidemment pas le seul. Et heureusement, il y en a beaucoup d'autres plus positifs et moins douloureux.
On a Jofoot qui nous écrit: moi, je ne suis pas jaloux, je suis possessif. Quelle est la différence, Jean-Paul Sauzet?
Moi, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de différence, parce que c'est une manière de garder l'autre à soi, de ne pas se faire abandonner. Donc c'est une manière d'exprimer sa jalousie. Surtout, ne me quitte pas, tu es à moi, je te veux que pour moi, et tu ne vas surtout pas voir ailleurs, ni voir d'autres personnes. C'est une très belle forme de jalousie, élégante.
Et possessif, être possessif, c'est avoir quand même la notion de la possession, Bernard. Donc, est-ce que vraiment l'autre nous appartient lorsque l'on est amoureux?
Je ne crois pas, mais on est tous les deux co-responsables de notre relation, comme on dit quand on est...
Oui.
Psychiatriquement correct. Donc non, la possession, évidemment, quand elle est poussée à l'extrême, ça transforme l'autre en objet et c'est insupportable, évidemment. Maintenant, être possessif, si c'est une délicatesse, ça peut se comprendre, mais si c'est vraiment seulement un mot.
On va demander à Steven s'il aime justement l'idée d'être possédé par sa femme. Bonjour Steven, comment ça va ?
Bonjour Flavie, ça va ?
Soyez le bienvenu
sur
RTL.
Bonjour.
Alors Steven, dans un instant on va développer évidemment votre histoire, mais vous nous avez appelé puisque la jalousie c'est un sujet qui vous touche particulièrement. Qu'est-ce que vous en pensez quand on dit qu'effectivement aimer l'autre, ça n'est pas forcément le posséder ?
Ah bah oui, faut posséder, c'est je connais ça, c'est comment dire.
Est-ce que vous êtes quelque part, vous avez le sentiment d'être un petit peu l'objet de tout l'amour, de toutes les attentions de votre femme qui exprime une certaine jalousie?
Ah oui, c'est que moi, c'est moi, c'est.
Vous avez l'impression d'être possédé?
Oui.
Vous avez l'impression d'avoir encore un peu de marge de liberté dans votre existence ou est-ce que vous vous sentez un petit peu entravé par cette jalousie?
Ça entrave, oui, au quotidien, mais j'arrive quand même par moments à me libérer, on va dire. On va parler comme ça, on va me libérer, me prendre un peu de temps pour moi. C'est dur, mais je lui laisse plus le choix en fait maintenant. J'ai compris que plus que je lui donnais, plus qu'elle en voulait.
D'accord. Et vous avez le sentiment, Steven, que pour vous, sa jalousie, c'est l'expression de son amour ?
Oui, ça prouve qu'elle m'aime, mais c'est trop, comme je vous dis, c'est beaucoup trop. C'est. Statut de couple.
Alors justement, vous allez nous expliquer cette idée de petite mort à petit feu, hein, évidemment, Steven. Vous allez nous raconter ce que vous vivez au quotidien. C'est vrai que j'imagine que ça n'est pas toujours évident de souffler. Puis en même temps, ceux qui sont jaloux, et on y reviendra, ne sont pas forcément très heureux de l'être non plus. Steven, vous ne bougez pas, on se retrouve tout de suite sur RTL.
Vous écoutez RTL.
15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Comme quoi, même avec la jalousie, on peut la transformer dans une musique plutôt joyeuse et agréable. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on parle de gérer la jalousie dans le couple avec vous et puis avec nos invités qui sont Bernard Gébérovitz et avec Jean-Paul Sauzet qui nous suivent donc jusqu'à 16h et qui suivent les témoignages de nos invités comme Steven qui est avec nous en ligne. Mais auparavant, je voudrais qu'on revienne donc sur cette notion de jalousie, cette notion d'amour dans le couple. Donc, c'est normal quand même d'être jaloux, Jean-Paul Sauzet.
Pas toujours.
Ah.
Parce que je trouve que c'est d'être jaloux, je dirais, on pourrait dire c'est normal. Ce qui va être intéressant, c'est de regarder l'intensité de la jalousie lorsqu'elle prend la relation du couple, lorsqu'elle étouffe, lorsqu'elle devient complètement captivante au point que le couple est pris par ça et qu'il ne peut plus vivre autrement que dans un rapport de jalousie, c'est-à-dire dans un rapport de force, dans un rapport de pouvoir au sein du couple, dans un rapport où l'abandon ou l'étouffement sont en jeu, dans un rapport où la liberté ou la dépendance sont en jeu. Et là, ça devient un peu toxique. Et la jalousie peut devenir toxique.
Bernard, comment peut-on justement sentir quand la limite est franchie ? Qu'est-ce qu'une jalousie normale et une jalousie pathologique ?
La jalousie normale, ça peut être un jeu à deux qui fait partie des jeux de séduction, on se teste, c'est un jeu, mais un jeu, il faut être d'accord pour jouer, il faut être d'accord tous les deux, il y a un début et il y a une fin dans ce genre de jeu.
Il y a des règles.
Et il y a des
règles.
La jalousie devient excessive quand elle s'accompagne évidemment de colère, quand elle entraîne la restriction de la liberté de l'autre, la restriction des contacts, et souvent aussi une dévalorisation de l'autre. Et là, on est dans une dimension qui devient vraiment pernicieuse et perverse.
Quand vous parlez de dévalorisation, c'est une façon d'infantiliser l'autre, c'est-à-dire de le réduire quelque part, de façon à ce qu'il ne puisse plus nous échapper. Est-ce qu'il y a une volonté de mettre sous cloche, de peur d'être abandonné, Jean-Paul ?
Oui, tout à fait.
C'est ça la dévalorisation ?
Oui, et une dévalorisation au sens où je réduis l'autre à l'objet dont j'ai besoin, qui va me satisfaire, qui va apaiser mes angoisses d'abandon, ma peur d'être seul, ma peur d'être trahi, d'être violenté dans le lien que dans lequel je me suis engagé, dans ce lien amoureux qui compte tellement pour moi. Et c'est tellement effrayant, terrorisant même d'être trahi, que du coup j'enferme l'autre dans vraiment une forme d'objectalisation. Je le rends objet, je le définis, je l'enferme dans des attentes très précises et souvent insupportables pour l'autre, ou au contraire très jouissives, parce qu'il y a des couples qui fonctionnent sur des modes de jalousie et ça leur fait du bien, ils sont heureux dans ces règles du jeu, pourvu qu'elles soient consensuelles et consenties.
Voilà, exactement, l'idée étant d'être d'accord, c'est ce que vous appeliez les règles du jeu. Je ne suis pas persuadée que Steven était tout à fait d'accord au départ. Steven, vous êtes toujours avec nous. On entend votre souffrance et c'est vrai que Jean-Paul Sauzet et Bernard Gébérovitz ont raison de souligner aussi qu'il est une souffrance du côté du jaloux à travers la peur. Cette fameuse peur, elle a toujours existé chez votre épouse ?
Oui, depuis le début. Depuis le début, ça a toujours été comme ça. Puis je pensais que ça allait se calmer dans le temps, puis non.
Alors, ça fait 12 ans maintenant que vous êtes avec votre épouse. Vous êtes mariée avec elle depuis maintenant 5 ans. Vous avez 3 beaux enfants, Mégane, Gabriel, Baptiste. Donc c'est vrai que sur le papier, en plus, là, vous êtes en train de vous occuper d'une maison. Vous êtes dans la construction, donc il y a des projections d'avenir. Pourquoi a-t-elle peur, votre épouse? Est-ce que vous l'avez analysée, ça?
J'ai beau lui poser des questions, elle ne sait pas, c'est comme ça, c'est l'amour, je t'aime bien, j'ai peur de te perdre. Les réponses que j'ai... Quand elle voit qu'elle a été trop loin, après que je lui prouve qu'elle a été trop loin sous la jalousie, elle me dit « Oh oui, excuse-moi, je ne le referai plus ». Et puis en fait, ça recommence par la suite, ça reprend quoi.
Mais dites-moi Steven, elle a peur de vous perdre, mais vous lui prouvez visiblement par tout ce que vous construisez ensemble que vous allez rester un petit bout de temps.
Oui, justement, c'est ce que je lui dis. Si je me serais pas marié avec toi, j'aurais pas fait des enfants avec toi, j'aurais pas construit une maison avec toi, je serais pas engagé comme ça si j'aurais voulu aller voir quelqu'un d'autre, si l'intention d'aller voir quelqu'un d'autre, non, ce n'est pas le cas. Je lui prouve comme ça, alors sous le coup, c'est, oui, t'as raison. Et puis, d'un seul coup, ça va être, oui, mais tu m'aimes plus, pourquoi t'as regardé la fille-là, pourquoi elle te regarde? Je reçois un message, elle n'est pas contente, un appel pareil, il faut qu'elle sache c'est qui, jusqu'à fouiller dans le portable, plus maintenant parce que j'ai mis un code sous le portable pour éviter, alors que je n'ai rien à cacher, mais c'est aussi lui dire stop, il y a une limite, c'est mon téléphone, tu n'as pas à tout savoir non plus. Et ça, elle a du mal, ça.
Jean-Paul Sauzet.
Oui, moi, je trouve que c'est intéressant de regarder que c'est pas nécessairement madame qui est jalouse ou monsieur qui est jaloux, mais c'est comment dans notre couple, nous avons une transaction de jalousie. Comment dans notre couple, notre relation amoureuse est nourrie par la jalousie. Parce que, bien sûr, si votre femme, elle est jalouse, c'est qu'est-ce qui fait que vous continuez à supporter ça? Et comment, j'imagine que pour vous, j'appelle ça des bénéfices secondaires, l'expression n'est pas très jolie, mais comment ça nourrit votre couple, la jalousie de votre femme qui finalement manifeste un attachement permanent extraordinaire à votre égard?
Ça nourrit ou ça détruit, Steven? Parce que c'est vrai qu'il a raison, Jean-Paul, ça fait 12 ans que vous avez cette vie-là tous les deux. Est-ce que quelque part, d'une façon parfaitement inconsciente, vous n'y trouvez pas aussi votre compte?
Dans un sens, je me dis, ça prouve son amour envers moi.
Oui, c'est ça.
Pour moi, si elle le ferait plus, je trouverais même bizarre dans un sens qu'elle le fasse plus, parce que je me dirais, là, elle se détache de moi.
Voilà. Mais son beau code d'attachement.
Voilà. Et par moment, par contre, c'est fatigant. Je suis emprisonné. C'est lourd. Par moment, c'est lourd.
Vous nous avez expliqué tout à l'heure, et on va poursuivre dans un instant avec vous, Steven, que le fait de témoigner sur cette antenne, c'était aussi une façon peut-être de faire comprendre à votre épouse à quel point c'est parfois difficile pour vous. Vous allez nous expliquer ce quotidien et puis tout ce que vous mettez en place pour la rassurer, mais qui ne fonctionne pas, parce que j'imagine qu'on se sent impuissant aussi à un moment donné face à la jalousie de l'autre. À tout de suite, Steven.
Vous écoutez RTL.
Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Annick nous a envoyé ce message sur Facebook. La jalousie pathologique est liée à un gros manque de confiance en soi et elle détruit le couple. Je suis partie. Comme dans le film L'Enfer, vous connaissez, c'est de la folie. Être un peu jaloux, pourquoi pas? C'est une preuve d'attachement, rien de plus triste que de l'indifférence. Mais la jalousie pathologique, on en parle en règle générale. Mais on en parle également avec Steven. Steven, vous êtes toujours là?
Toujours.
Comment ça se traduit la jalousie de votre épouse? Concrètement,
quand je pars 5 minutes de trop, c'était où, avec qui, je vais chez ma grand-mère, je suis obligé de ramener un petit truc de chez ma grand-mère pour dire tu vois, je suis bien passé chez ma grand-mère, j'étais pas parti ailleurs. Le téléphone qui sonne, c'est qu'il a un message. Je vais au travail, j'ai des collègues femmes, pourquoi des femmes, ils t'ont mis des femmes, demande à avoir des hommes. C'est tout un ensemble, en fait, tous les jours, qu'il y a un tout petit truc qu'il faut que je prouve que, j'en ai rien fait de mal.
Mais vous devez ramener des preuves de votre loyauté. Ça veut dire que vous devez gérer en permanence cette situation d'homme fidèle.
Voilà, oui. Je sais que si je dois arriver un peu plus tard, il faut que je la prévienne. Lui dire, je vais là, je fais ça, je rentre après. Ah, des fois, elle appelle, t'es où? Je suis là. C'est bon, hop. Elle est rassurée. Pour moi, ça la rassure.
Mais et vous en souffrez, honnêtement, Steven, de cette situation?
Beaucoup au départ.
Oui.
Maintenant, moins, parce que, j'ai pris l'habitude. J'ai pris l'habitude que ce soit comme ça. Pour moi, c'est devenu une habitude de devoir prouver. C'est devenu une habitude, en fait.
Et une vie faite de confiance, d'indépendance, qu'est-ce que vous en pensez si tout à coup, d'un coup de baguette magique, votre épouse cessait d'être jalouse? Est-ce que vous seriez perdue ou est-ce que vous pourriez justement en profiter pour faire des choses dont vous ne profitez pas aujourd'hui à cause de ça?
Je pense que je serais perdue au départ. Je pense que ça me manquerait. Que ma femme, d'un seul coup, pour moi, ne m'aimerait plus ou aurait rencontré quelqu'un d'autre. J'aurais peut-être que moi, ce serait moi qui serais mal après, je pense.
Oui, alors là, on est clairement dans une jalousie, mais excessive. J'espère que votre épouse ne m'en voudra pas, mais une sorte de jalousie excessive, une peur permanente, Jean-Paul Sauzède, qui quelque part aussi construit la relation du couple. C'est-à-dire que Steven nous explique.
Une fois de plus, c'est intéressant de regarder que c'est pas madame qui est jalouse, c'est le couple qui se nourrit de la jalousie.
Oui.
Et comment Steven aussi, et vous le dites bien, Steven, c'est très touchant d'ailleurs votre témoignage. Comment si votre femme n'était pas jalouse, il vous manquerait quelque chose. Peut-être vous seriez plus très sûr de son amour, comme si vous vous nourrissiez vous aussi de cette jalousie, même si elle est excessive. Et comment votre femme vous met sous pression aussi avec sa jalousie. J'observe que vous êtes ensemble depuis 12 ans, mais vous avez attendu quand même 7 ans pour vous marier, donc vous étiez assez au courant de la situation. Et quand même, vous avez confirmé cet engagement dans une relation de jalousie que vous co-construisez ensemble. Je trouve que c'est ça qui est important, c'est de regarder comment vous aussi... vous alimentez cette jalousie, non pas en mettant votre femme dans l'inquiétude, mais en acceptant d'être aimée de cette façon-là.
Voilà, donc on est dans l'excès, Bernard Gibérovitz, mais en même temps, ça fait partie de leur mode de fonctionnement.
C'est les règles du jeu.
On est dans l'excès et en même temps, Steven dit bien qu'il arrive à rassurer sa femme avec les preuves. Et ce n'est pas toujours le cas, pas pour lui, mais pour d'autres. Pour d'autres, quelle que soit les preuves qu'on donne, elle ne rassure pas et il en faudra d'autres, et il en faudra d'autres, et il en faudra d'autres. Et là, il y a un enfermement qui est vraiment insupportable. Dans le titre de votre émission, c'est aussi le goût de l'autre, et dans la jalousie, on a perdu le goût de l'autre.
Oui, complètement. Et on impose les choses aussi. Mais c'est vrai que moi, ce qui me sidère, c'est que, par exemple, une personne infidèle est dans la gestion de son infidélité. Et là, Steven, c'est un homme fidèle qui est dans la gestion de sa fidélité, Jean-Paul, c'est qui touchant, ne cesse de ramener... Oui, c'est touchant, mais ça me semble épuisant, moi.
C'est leur mode, de leur manière de fonctionner.
Voilà, ramener des preuves et vivre modèle... en permanence avec l'inquiétude, quand même.
Oui, tout à fait. Mais il n'y a pas de modèle de relation de couple. C'est leur manière qu'ils ont choisi ou qu'ils ont co-construit ensemble pour s'aimer.
Très bien. Alors, écoutez, Steven, on va vous embrasser. Alors, je me permets de vous embrasser en même temps. C'est un peu à distance. Parce qu'entre Nancy et la rue Bayard, il n'y a pas trop de risques. Mais enfin, vous pourrez dire quand même à votre épouse que je me suis permise de vous embrasser.
Il n'y a pas de problème.
Et surtout, vous souhaite évidemment beaucoup de bonheur à vous, à votre épouse, à vos enfants, avec votre mode à vous de fonctionnement. Je vous embrasse.
C'est super de nous appeler et d'en parler.
Exactement, parce que ça libère la parole, ça fait du bien. Exactement.
Ouais.
Salut Steven, à bientôt sur
Merci,
RTL.
Merci, à bientôt.
Au revoir.
Merci, au revoir.
Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Jessica qui nous écrit « La jalousie n'empêche pas d'être trompée, c'est une perte de temps qui rend malheureux. » Guillaume qui envoie un petit message personnel à Audrey. « Audrey, une thérapie de couple, ça te dit ?» Audrey de répondre « On est aussi atteint l'un que l'autre, lol. » Voilà, il y a aussi des couples qui communiquent sur notre page Facebook et c'est super mignon. Et puis Sylviane, « La jalousie est un défaut qui pourrit la vie des autres. Mon compagnon est un jaloux maladif, c'est infernal, il se fait des films, invente des choses, cela devient invivable. Je ne comprends pas comment on peut être comme cela, moi je ne suis pas jaloux. Où je fais confiance et voilà. Mmh. Alors, cette histoire de confiance, Bernard Gibérovitz, Jean-Paul Sauzède, c'est la confiance en qui ? La confiance en soi ou la confiance en l'autre en réalité, Bernard ?
C'est la confiance dans les trois. C'est la confiance en soi évidemment qui est souvent altérée dès le départ, la confiance en l'autre et aussi la confiance dans l'histoire qu'on construit ensemble. C'est-à-dire, on imagine que de toute façon, cette histoire ne va pas durer. Soit parce que je suis trop bien pour elle, soit elle est trop bien pour moi, mais il y a une asymétrie et un déséquilibre qui fait qu'on n'arrive pas à imaginer que l'histoire va pouvoir se poursuivre. Il y a un manque de confiance à tous les niveaux.
Alors, si on revient sur la confiance en soi, qui est soulignée par Caroline, par Audrey et par plein d'autres, c'est vrai que quand on a un problème d'estime de soi, on a vraiment la peur d'être abandonné, Jean-Paul. Et puis, j'imagine aussi qu'il y a notre histoire personnelle qui rentre en ligne de compte.
Bien sûr, oui, tout ça rentre en ligne de compte. Et je trouve que c'est intéressant de de regarder autour de la jalousie, comment on est sur deux polarités, quoi, comme deux, je sais pas comment dire, deux extrêmes. D'un côté l'abandon, puis de l'autre côté l'étouffement. Et puis on pourrait le dire encore autrement, d'un côté la fusion, et de l'autre côté, ce qui est formidable, mais c'est de l'étouffement à un moment, et puis de l'autre côté ça pourrait être la liberté, au risque de vivre l'abandon et d'être dans l'angoisse de sa solitude, de ne plus exister pour l'autre. Et on est pris là-dedans en tant qu'humain, voilà, on est pris dans ce désir de fusion, puis dans ce désir de liberté, dans ce désir de pouvoir être dépendant, d'être vraiment avec l'autre, et puis en même temps cette peur de l'étouffement. On ne peut pas échapper à ça.
Et la confiance, quand il s'agit de la confiance en l'autre, Bernard, est-ce que l'autre est responsable des inquiétudes de son conjoint ou de sa conjointe? Est-ce qu'on a un rôle à jouer aussi dans les signaux que l'on renvoie aux jaloux?
Oui, on a un rôle à jouer. On est responsable de la relation, d'abord, et on a un rôle à jouer. Alors, on n'est pas responsable à l'origine du manque de confiance de l'autre et de sa peur de l'abandon, qui peut être très ancienne, liée à des difficultés d'attachement de la toute petite enfance, peut-être. Mais on peut essayer de rassurer l'autre et de faire attention à la relation.
Oui, mais si je vis avec un jaloux, est-ce que c'est de ma faute s'il est jaloux? Pas toujours.
Non, c'est votre responsabilité de vivre avec lui.
D'accord.
C'est pas de votre faute s'il est jaloux.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qu'on est responsable de la jalousie de l'autre? Est-ce que c'est parce qu'il y a jalousie qu'il y a forcément, à un moment donné, une erreur quelque part?
Non, la jalousie, elle peut être antérieure. Elle peut être liée à des expériences désastreuses précédentes et dans d'autres
cas. Donc on peut être victime de la jalousie de l'autre.
Bien sûr, oui, bien sûr.
Et on peut en même temps l'activer.
C'est-à-dire?
Je peux activer la jalousie de l'autre parce que mon partenaire est une personne inquiète, qui a peur. Et si effectivement je rentre trop tard, que j'oublie d'informer de personnes que j'ai vues ou qui me voient avec une femme ou un homme avec lequel je ne devrais pas aller, effectivement j'active la jalousie.
Mais sans pour autant le vouloir, sans que ce soit anormal.
Sans nécessairement que ce soit intentionnel et sans que ce soit nécessairement voulu.
Ni normal.
Ni normal.
Par exemple, Steven qui rentre de chez sa maman avec la preuve qu'il était chez sa mère, il est complice de la jalousie aussi de sa compagne, et néanmoins c'est un homme loyal et fidèle.
Bien sûr.
Bernard.
Et je crois qu'il y a une question importante dont on discute peu à l'origine des couples, qui est celle des limites de l'intimité.
Absolument.
Steven a dit, voilà, elle a voulu regarder dans mon portable. C'est vrai que chez certaines personnes, les portables traînent sur la table, on peut regarder. Pour d'autres, le portable fait vraiment partie de l'intimité. Donc je crois qu'on a intérêt dans un couple à essayer de définir quelles sont les frontières de mon intimité, à partir de quel moment tu deviens intrusif ou intrusive. Et c'est nécessaire, parce que c'est pas toujours perçu pour l'autre. Certains pensent qu'il est tout à fait normal d'ouvrir le courrier du conjoint, alors que ça peut être extrêmement choquant pour d'autres personnes, évidemment.
Donc ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est que les règles, elles se jouent aussi dès le départ, les fameuses règles dont parlait Jean-Paul.
Oui.
Voilà, donc poser les limites de sa propre intimité, ne pas forcément autoriser...
Puis quel contrat on va se donner en couple? Voilà, de qu'est-ce qui est autorisé? Est-ce que on peut aller sur l'ordinateur de l'un ou de l'autre? Est-ce qu'on peut regarder le téléphone de l'un ou de l'autre? Est-ce qu'on peut regarder le compte bancaire de l'un ou de l'autre? Est-ce qu'on peut fouiller les poches de l'un ou de l'autre? C'est des contrats, c'est des règles à se mettre, c'est au moins s'en parler pour vérifier comment on va nourrir la confiance. Ou au contraire, comment on va s'exciter à augmenter la jalousie parce que ça va mettre de l'intensité dans notre couple. Ah, c'est bon d'être inquiet, au moins je vais être jaloux et je vais sentir que je t'aime et que tu vas sentir que tu es aimé, ça va être super.
Mais est-ce que la jalousie, ce type de jalousie, peut construire un couple, vraiment?
Sans
au final le détruire. C'est-à-dire qu'on peut avoir le sentiment que ça fonctionne bien parce qu'on est jaloux, parce qu'on s'inquiète, parce que... Et puis à un moment donné, on n'en peut plus, quoi. Est-ce qu'on peut résister longtemps à ce genre de vie?
Il y a des couples qui fonctionnent très bien comme ça.
Bernard?
Mais si c'est l'essentiel, je ne crois pas. Vraiment, c'est des couples qui s'enferment, qui fonctionnent très bien peut-être, mais dans un mode très, très enfermé.
Très exclusif.
Exclusif. On a vraiment intérêt à nourrir la relation avec beaucoup d'autres choses, beaucoup plus...
Et qui viennent de l'extérieur aussi.
De l'extérieur, bien sûr.
Pascal nous envoie un tweet. L'enfer, écrit-elle en lettres capitales, durant 7 ans, réveil pour connaître mes rêves, relevé de mes kilomètres et justificatif, amour et jalousie égale impossible. On se retrouve, si vous le voulez bien. Messieurs, on va donner la parole à Loïc. Loïc, il a été un jaloux maladif pendant de nombreuses années, puis un jour, il a décidé que ça n'était pas possible, ni pour les autres, ni pour lui. Il va témoigner dans un instant sur cette antenne.
Vous écoutez RTL.
Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Dans un instant, Loïc va nous éclairer de son témoignage. Un un message pardon, que nous avons reçu sur Facebook de Nadine. Mon ex-mari était très jaloux, il se faisait des films tout seul, ça se finissait toujours très mal, je l'ai quitté et je me suis remariée. Mon nouvel époux n'est absolument pas jaloux et ça fait tout drôle. Bah, c'est sûr que c'est la vie qui change hein, quand tout à coup la confiance s'installe dans le couple. On en parle avec vous aujourd'hui Jean-Paul Sauzet et vous Bernard Gibérovitz. Alors juste avant qu'on donne la parole à Loïc, quelle attitude avoir face à une personne qui est en proie à des crises de jalousie, Jean-Paul ?
Je trouve ça terrible, parce que c'est des crises qui sont parfois incontrôlables et incontrôlées pour la personne qui souffre, hein, les personnes jalouses oui. souffrent. Il faut les reconnaître et leur donner ce crédit-là. Donc il y a vraiment, le souci je crois, c'est vraiment apaiser, c'est-à-dire rassurer en termes redonner des limites, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure avec Gérard, redonner des signes d'engagement.
Bernard même, hein, mais faites gaffe parce qu'il va être jaloux de Gérard. Il va dire, attends, c'est qui ce Gérard ?
C'est aussi de redonner des signes oui. d'engagement, c'est-à-dire remanifester comment on est avec l'autre, et puis remanifester de la fusion, remanifester de la proximité, de la dépendance, et de redonner des signes d'amour.
D'accord, mais parfois aussi, on a beau redonner des signes d'amour, ça peut ne pas suffire. Bernard,
ça peut ne pas suffire, et je pense qu'il faut aussi mettre des limites, c'est-à-dire ne pas accepter les violences, les colères verbales, les colères, les insultes qui viennent souvent. Hein, donc là, il faut être très rapidement, mettre vraiment des limites très fermes.
Idem pour le monde intime dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire ne pas autoriser forcément l'autre à venir pénétrer cette intimité qui est importante pour nous.
Oui, après ça se discute, ça se négocie, mais on peut parler du modèle qu'on a envie d'installer chez nous, mais d'expliquer à partir de quel moment on ressent une intrusion et vraiment un malaise profond. Oui.
Bon, on va donner la parole à Loïc, parce que Loïc il a vécu justement ces fameuses crises douloureuses et incontrôlables, et puis un jour il a décidé de s'en sortir. Bonjour Loïc, bienvenue dans En effet pour s'entendre.
Bonjour Flavie, bonjour tout le monde.
Alors Loïc, quand je dis que c'est incontrôlable, c'est véritablement le cas. Est-ce que vous vous sentiez tout à coup possédé par un sentiment de panique tel que vous faisiez des choses qui n'étaient pas spécialement en adéquation avec vos valeurs ?
Alors oui, c'était un peu ça. C'est surtout en fait que je me rendais malade d'être tout seul. Donc en fait, par exemple, quand j'avais une crise, donc je prenais très mal au ventre, je me mettais à la fenêtre. En 3 minutes, je pouvais fumer 5-6 cigarettes d'affilée, histoire de dire que ça va me déstresser, et pas du tout. Après, je partais donc à me faire des films monstrueux en louant l'argent en travers dans tous les sens. C'était infernal.
Mmh. Vous pensiez toujours que votre compagnon était infidèle ou est-ce que c'était cette idée de solitude qui était pire ?
Ah non, parce que la solitude, ça ne savait pas tout ce qui me dérangeait. Non, c'était vraiment une idée que je m'étais mise en tête en me disant, de toute façon, oui, à un moment donné, ça arrivera, il sera infidèle. Donc, en gros, il faut que je m'y prépare. Mais parce qu'en fait, je me suis monté la tête tout seul. Enfin, j'étais pas net hein, quand même. Hein, j'ai fait des sacrés films. Hein,
mais quand vous dites pardon, ça me fait rire. Quand vous dites j'étais pas net, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'imaginaire nous emmène dans des mondes complètement fous.
C'est ça. Et le pire, c'est que ça. Du coup, en fait, on part tellement loin dans nos films que du coup, ça devient la réalité. On arrive à se convaincre nous-mêmes de choses complètement
délirantes.
Des fois stupides. Délirantes, c'est ça. Ouais,
c'est-à-dire que vous pouviez imaginer votre compagnon avoir une relation avec votre voisin
Ah oui, tout à fait. Exactement. Et puis avec tout le monde, hein, n'importe qui. Hein. Tu sais, il y avait quelqu'un dans le supermarché, il a souri. Pendant que j'étais au rayon lait, lui, il était au rayon charcuterie avec le bonhomme. Il a donné le numéro de téléphone, bon, on se voit demain.
Oh, quelle horreur. C'est une véritable souffrance, ça.
Ah oui, ouais, ouais. Par contre, ouais, c'était dur. Mais se rendre malade comme ça, c'était... Avec le recul, je me demande comment j'ai pu. Enfin, voilà.
Alors, comment vous avez pu ? Est-ce que vous vous demandez avec le recul comment il a pu supporter tout ça ?
Alors, lui, il avait cette part de responsabilité dans la mesure où il le nourrissait aussi. C'est-à-dire que tout à l'heure, quand je vous écoutais, il avait ce côté aussi très exclusif où il ne fallait pas trop que je sorte, que je sois beaucoup avec lui. Alors moi, quand j'avais du coup déjà à la base ce petit problème, alors franchement, ça l'a nourri un maximum. Et alors, je pense qu'on était enfermés dans de la fusion. Et puis, il y avait des petits tacs, vous savez, des fois autour d'un café avec des amis. Genre, ah, il a vu machin, en fait, c'est ton amant. Non, je rigole. Et puis, en fait, c'est un petit tac comme ça qui passe au passage.
Ouais, c'est les super potes, ça. J'adore. Voilà, c'est vrai, parfois, sous couvert d'humour, les gens balancent des trucs qui peuvent avoir des conséquences, je trouve ça complètement...
Ou même le conjoint, d'ailleurs.
Oui, oui.
Il balance un petit message devant tout le monde, hop, là, pour rigoler, se disant, et puis en fait, le message est lancé.
Bon, alors ça, c'était avant.
Oui.
Parce que le changement, c'est maintenant, Loïc.
C'est ça, c'est toujours maintenant.
Vous avez décidé que c'était fini, tout ça.
Et quand je me suis séparée, donc au bout de 8 ans, avec mon ex-conjoint, donc j'ai rencontré quelqu'un quelques mois après. Et alors, au tout début, ça a recommencé un peu de la même façon. Et en fait, un jour, je dormais pas de la nuit. Donc, il y a une nuit, je n'ai pas dormi, j'ai cogité. Et j'ai été tellement malade que je me suis dit stop, c'est bon. Enfin, j'étais vraiment arrivé à la saturation totale. Je me suis dit, ça ne va pas recommencer à nouveau. Je ne voulais pas que ça recommence, en me disant que si ça recommençait, ça voulait dire aussi que je n'arriverais jamais à me construire et que je pense que tout à chacun, on a envie de se construire. Donc, je lui dis, à un moment donné, il faut lâcher prise. Et bah, tout seul, je suis à mon travail, à me dire, arrête de cogiter, arrête, m'occuper d'esprit, faire autre chose, écouter la musique relaxante, et puis arrête de fumer les cigarettes, ça ne sert à rien. Et voilà.
Et comment puis, ça se passe?
Ah ben maintenant, ça se passe très très bien. Ça se passe très très bien. Enfin, je veux dire, il n'y a plus aucun problème. Je vis normalement, j'ai l'impression de vivre normalement.
Alors pour ceux qui nous écoutent et qui se sentent enfermés dans leur jalousie, qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller? Parce que c'est vrai que nos invités, là, ont opiné du chef quand ils vous ont écouté. Vous seriez un très bon coach. Parce que... Non mais vous avez raison, mais je trouve que c'est une prise en main qui n'est pas facile. Qu'est-ce que vous pourriez dire à ceux qui nous écoutent?
Eh ben alors déjà, mon point de départ, c'était de me mettre à la place de mon conjoint et de me dire, alors si je veux que mon conjoint ne fasse pas de bêtises, il faut peut-être aussi effectivement qu'il sente que j'ai confiance en lui. Parce que si à force de lui dire tout le temps, de toute façon tu vas me tromper, de toute façon tu vas avoir quelqu'un d'autre, et gna gna gna, enfin, à un moment donné, il va dire bah ok j'y vais. Enfin, parce que finalement.
Parce que c'est insupportable. Bah oui, c'est ça.
Voilà, on fait que le tenter. Donc, et après on détruit tout et on détruit nous aussi. Puis finalement, on va se retrouver à dire, ah bah, ça y est, il l'a fait. Ah bah moi j'en étais sûr. Bah non, il l'a fait parce que nous, on l'a forcé aussi à le faire. Enfin, on l'a poussé insidieusement à le faire. Donc. Voilà, à un moment donné, faut s'arrêter. C'est parti de là. Je dis, mets-toi à la place de l'autre. Et après, ben, j'ai essayé d'occuper mon esprit. Quand ça allait pas, j'ai appelé quelqu'un avec qui je pouvais rire, qui me faisait du bien, même avec qui je pouvais en parler. Et voilà, après, je sortais, j'allais prendre l'air. Je trouvais plein de petites astuces toutes bêtes comme ça et qui permettaient à la longue de travailler. Et puis, c'est venu tout seul, en fait, après.
Eh bien, Loïc, on vous met un 20 sur 20, comme dirait l'autre. Et puis, merci pour votre témoignage, parce que je pense qu'il va servir à certains qui nous écoutent.
Et
dans un instant, on va poursuivre nos échanges avec mes invités. Je vous embrasse, Loïc. Salut.
Merci. Au revoir.
Vous écoutez RTL.
15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Merci d'être avec nous. Nous ouvrons donc le dernier volet de notre émission consacrée à la jalousie. On pourrait en dire et en redire évidemment, mais les messages que l'on reçoit aujourd'hui, Jean-Paul Sauzet et Bernard Gibérovitz nous disent quand même une chose, c'est que la jalousie c'est un enfer. Un enfer pour celui qui est jaloux, on l'aura compris, Loïc l'a très bien raconté. Un enfer pour celui qui est l'objet de la jalousie, parce que parfois on n'a rien demandé et on essaye de prouver à l'autre qu'on l'aime, mais ça ne suffit pas. L'idée c'est de savoir gérer tout ça. Et c'est vrai que tout le monde n'a pas en tout cas la force de Loïc qui un jour a réussi à se remettre en question en se mettant tout simplement à la place de l'autre et en c'est se super, disant hein. Finalement c'est bien, mais tout le monde n'a pas cette capacité. Qu'est-ce qu'il faut faire, Jean-Paul? Comment sortir de cet aveuglement?
Je trouve que c'est très difficile parce qu'une fois de plus, ça fait partie pour moi d'un système de couple. Et soit je réagis très vite pour dire non, stop, c'est pas possible de fonctionner comme ça, il y a de l'insupportable. Et je résiste à cette expression de jalousie dans laquelle je deviens victime moi-même de l'être jaloux avec qui je vis. Soit je laisse développer le système et à ce moment-là, ça fait partie de ma vie du couple. La jalousie fait partie de la manière dont nous nous aimons. Jusqu'à devenir parfois insupportable et jusqu'à parfois aboutir à une séparation, tellement ça devient toxique et une sorte de poison à la relation.
Mais comment sortir, quand je disais cet aveuglement, Bernard aussi, c'est quand on est vraiment dans le sein du couple et qu'on est l'un en face de l'autre et que l'un dit « tu n'as aucune raison d'être jaloux », que l'autre dit « mais je le sais bien, je t'ai vu et je ne peux pas faire autrement ». Comment, à un moment donné, est-ce que c'est dans le couple que ça se décide? C'est-à-dire le jaloux décide de sortir de ce schéma-là, et la victime décide aussi de poser des limites de façon à ce qu'il n'y ait plus de prise.
Oui, les deux peuvent se faire. Loïc a dit, au prix d'une séparation, il a pris conscience et il a décidé de reconnaître qu'il était jaloux, de l'accepter et de faire le travail nécessaire pour pouvoir changer. Et il faut le féliciter parce que c'est un chemin qui n'est pas facile.
Oui.
On peut aussi, à un moment, effectivement, le faire à deux, en considérant que c'est notre problème à tous les deux. Et il faut tous les deux qu'on arrive à sortir de ça et qu'on peut s'entraider. La difficulté, c'est quand dans la jalousie, il y a une sorte de pensée totalitaire, excusez-moi de dire des grands mots, qui est que l'autre n'existe pas. Je suis tout seul dans mon histoire. Donc, il faut remettre du lien, recréer du lien pour pouvoir, à un moment... accepter cette dimension qui est, il y a une dimension jalouse entre nous deux qui est insupportable, et je vais t'aider si tu acceptes à ce qu'on sorte de ça.
On se disait il y a un instant que le travail, le chemin qu'a pris Loïc pour s'en sortir, c'était un chemin personnel où il avait trouvé des stratégies de remplacement, d'évitement. Il essayait de s'occuper l'esprit quand il avait un coup de mou. Il appelait un ami, il trouvait des astuces. Et je disais quelque part, on dirait que c'est quelqu'un qui sort d'un chemin d'addiction. Effectivement, est-ce qu'on peut nourrir une addiction pour la jalousie ou ce sentiment-là ?
Bien sûr, moi je pense qu'on peut tout à fait nourrir de l'addiction avec plein de prétextes, avec plein de petites situations par lesquelles on va effectivement alimenter cette inquiétude et cette angoisse d'être abandonné, d'être seul, de ne pas être aimé. Et je trouve que ce que dit Bernard est tout à fait juste et pertinent, et je crois qu'il faut vraiment retenir ça, c'est qu'il y a un travail, il peut y avoir aussi un travail du couple pour remettre du lien et sortir de cette pensée totalitaire dans laquelle l'autre n'existe pas. Je suis seul, jaloux, abandonné, maltraité, trahi, l'autre n'existe pas, je n'arrive pas à le reconnaître, à le voir pour ce qu'il est, et tout le travail du couple et de la thérapie de couple, c'est aussi notre métier, c'est de remettre du lien et de dire non, sortons de cette objectalisation de l'autre. L'autre n'est pas un objet, il existe. Remettons du lien.
À tel point que Jessica nous écrit qu'elle a trouvé même insultant lorsque la personne qu'elle aimait insinuait qu'elle pouvait avoir ce qu'elle appelle la cuisse légère. Ça m'a énormément rabaissée. C'est vrai que pour la personne victime de la jalousie de l'autre, il y a du mépris. Ce sentiment d'être pris pour ce que l'on n'est pas et de passer son temps à vouloir prouver que ça n'est pas le cas, et pourtant ça ne fonctionne pas. Donc c'est effectivement difficile. Eliezer qui dit « J'ai vécu en couple pendant 3 mois avec une jalouse possessive. Je ne pouvais même plus parler à mes amis. Aujourd'hui, malheureusement, on ne se voit plus. » Enfin, aujourd'hui, on ne se voit plus. Je rajoute malheureusement, mais je ne sais pas si c'est malheureusement d'ailleurs. « Joufo, j'ai vécu 4 ans avec une folle jalouse, tellement jalouse qu'elle sentait mes vêtements. Elle m'appelait 30 fois par jour quand elle était en pleine crise. Une véritable horreur. » Et puis moi, je voudrais qu'on termine parce que parfois, la motivation, elle vient du couple, mais elle peut venir aussi de l'entourage. Anne-Marie qui nous explique « Je suis la fille d'une femme maladivement jalouse. Elle nous faisait vivre l'enfer. Des assiettes qui volaient, des peintures extérieures qui ne pouvaient pas être terminée, car elle hurlait que la voisine allait dans son jardin pour voir mon père et des scènes de ménage avec des cris et des hurlements. Bref, ce fut épouvantable pour nous les enfants. Une de nous 5 est devenue comme elle, et pour les 4 autres, impossible pour nous de vivre avec ce genre de personnes jalouses. » Est-ce qu'on peut trouver aussi la motivation chez nos enfants qui ne sont victimes de rien et qui en même temps subissent ces dommages collatéraux, Jean-Paul?
Bah oui, tout à fait. Tout à fait.
Non, mais c'est atroce de dire que des histoires de couple, à un moment donné, peuvent traumatiser des enfants.
Elles vont se répercuter sur la génération suivante, parce qu'effectivement, en tant qu'enfant, on va se construire à partir d'un modèle que nous avons reçu de nos parents.
Donc se méfier effectivement de ça.
Bien sûr, se méfier de ça. Et effectivement, on peut trouver dans le fait d'élever les enfants une motivation pour faire très attention et leur montrer des choses beaucoup plus positives que celles-là. Encore une fois, la possession n'est pas un mode relationnel très efficace, et la confiance, ça n'est pas avoir le contrôle sur l'autre. Faire confiance, c'est pas contrôler.
On se retrouve, messieurs, dans un instant, et moi je vous parlerai du programme de demain. J'espère que vous êtes en forme.
Vous écoutez RTL.
Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Bernard Gibérovitch, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Voilà. Et pour tous ceux qui en souffrent et qui justement décident de prendre de bonnes résolutions, voici votre ouvrage, J'arrête d'être jaloux ou jalouse, chez Erol. Il paraît qu'en 21 jours, on peut changer. Donc voilà, il est là. Merci beaucoup. 21 jours de grand travail. Merci Jean-Paul Sauzède. Donc je rappelle, effectivement, il va falloir que je tienne à l'endroit, Les vrais secrets d'une vie de couple réussie, chez Interédition. Merci à vous. Vous saluerez également Anne Sauzède Lagarde, votre épouse, donc, avec laquelle vous avez fondé l'école du couple. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Et puis, je vous le disais, j'espère que vous serez en forme demain, car nous aurons le rythme dans la peau. Tango, salsa, rock, valse ou encore jerk, quels sont les bienfaits de la danse? Quelle danse pour quel âge? Soyez prêts, demain, le pied dansant à 15h sur RTL. Tout de suite, voici Laurent Ruquier et les grosses têtes. Moi, je vous embrasse et je vous dis à demain.
Vous écoutez RTL.